est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vais adopter ma voix doucereuse, un peu suave aujourd'hui parce que, pour être 100% honnête, j'enregistre cet épisode alors que ma fille est endormie. C'est la nuit ici, mon mari est sorti et je suis toute seule dans mon salon. J'ai la paix pour enregistrer l'épisode d'aujourd'hui, mais je veux pas créer de remous. Donc, je parle pas super, super fort. Donc, ça va être tout en feutrine, là, aujourd'hui, quand vous m'écoutez pour l'épisode. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet super important, autant quand on se lance en entreprise que quand on est entrepreneur à temps partiel et qu'on fait des contrats on the side. Puis je dirais même que c'est important tout aussi bien quand on est un employé, une employée, et c'est de choisir ses clients. Est-ce que quand on se lance en affaires, être avec un client, c'est vraiment une relation pour le meilleur et pour le pire? Puis comment est-ce qu'on peut mitiger les risques de travailler avec des gens qui sont pas aligné avec qui on est, avec nos services et qui vont nous créer plus de stress que d'avantage dans le fond. Et je vous avoue que là, bon, je suis sur la veille de terminer mon congé de maternité, puis j'ai réfléchi beaucoup au type de clientèle que je voulais attirer avec mes services, puis j'ai l'impression que ces derniers mois, j'ai vraiment, vraiment commencé à attirer les bonnes personnes. Fait que des femmes et des hommes, dans le fond, qui vraiment fitent vraiment bien avec ce que je veux promulguer, autant dans le domaine des communications et du marketing, mais aussi tout ce qui est branding personnel, histoire, narration et ambition aussi. Donc, je trouve ça le fun que ma notoriété puis ma marque soient arrivées à un certain point où est-ce que j'attire des gens un peu comme moi, j'attire des gens qui me donnent vraiment envie de travailler sur leurs projets puis des choses comme ça. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup, c'est ça, à tout le cheminement que j'ai fait pour en arriver là et que je considère être quand même le cheminement de plusieurs, surtout quand on débute. Donc, une des choses à savoir, ou peut-être que vous le vivez, c'est que quand on lance nos services ou quand même on se lance sur le marché de l'emploi, on vit des insécurités. Tu sais, on n'a jamais fait, tu sais, c'est peut-être la première fois qu'on rend ce type de service ou qu'on le rend dans un contexte qui n'est pas corporatif, donc à notre compte ou selon nos propres standards. Et c'est super normal dans ces cas-là. On a le réflexe de vouloir servir tout le monde. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle à mes débuts, quelqu'un venait vers moi, puis là, je me cassais la tête pour savoir comment est-ce que je pouvais adapter mes services pour qu'il ait envie ou qu'elle ait envie, cette personne-là, de travailler avec moi. Donc là, je me pliais un petit peu en quatre, je me disais, OK, mais on peut faire ci, OK, je peux descendre mon prix, je peux faire ci, je peux faire ça. Ce qui faisait que, bon, c'était le fun d'un point de vue versatilité, c'était le fun pour moi d'essayer des choses, mais ce que ça faisait, c'est que souvent, je me sentais que j'avais pas fait mon meilleur travail parce que j'avais fait des compromis, que ce soit sur le point de vue du salaire ou du taux que je demandais, du taux horaire, du pricing, ou que ce soit en point de vue des responsabilités ou des tâches que je faisais. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, j'ai fait des mandats d'intégration de sites web à certains moments, et même si je pense que c'est une stratégie que j'aime adopter, l'intégration de site web. Puis là, quand on parle d'intégration, c'est vraiment prendre des éléments visuels, puis aller dans le back-end du site pour vraiment modifier le layout, modifier la mise en page et soit l'embellir ou changer un petit peu comment c'est présenté. Et c'est quand même quelque chose d'assez technique, c'est quelque chose d'assez visuel aussi souvent. Et c'était pas quelque chose que je sentais que j'étais sur mon X. Puis là, si vous connaissez un petit peu la matrice où vous allez peut-être pouvoir la visualiser, là, mais d'un côté, vous avez ce que vous êtes bon à faire, puis d'un autre côté, vous avez ce que vous aimez faire. Puis c'est comme, dans le fond, une espèce de carré où est-ce que vous devez vous demander, est-ce que je suis dans... Bon, dans le fond, si vous voyez un carré avec quatre carreaux, il y a ce que vous êtes bonne à faire, ce que vous n'êtes pas très bonne à faire, ce que vous aimez faire, puis ce que vous détestez faire, dans le fond. Et puis, si vous regardez les carreaux, ou du moins la grille, il y a des choses dans lesquelles vous êtes super bonne, mais que vous n'aimez pas, des choses dans lesquelles vous n'êtes pas très bonne, mais que vous aimez vraiment beaucoup. Puis ça, c'est l'ordre, par exemple, de la passion. Et la zone de génie, c'est vraiment là où est-ce que vous faites quelque chose que vous aimez et dans laquelle vous performez. Puis, bon, quand je reprends mon exemple d'intégration de site web, tu sais, c'est pas quelque chose qui me demandait beaucoup d'effort mental à faire. C'était vraiment une tâche plutôt mécanique pour moi. Et bien que j'étais bonne et que c'était facile pour moi, c'était pas quelque chose qui me remplissait de joie ou qui me faisait sentir que je développais mon potentiel ou que je donnais ce que j'avais à donner à ce client-là. Donc ça, c'était des choses, par exemple, que j'ai dû affiner, plus j'ai affiné mon offre de service, mais aussi d'apprendre qu'il y avait un type de clientèle qui, c'est vraiment ça qu'il recherche. Puis c'est pas la faute du client dans ce cas-là, parce que c'était pas mal moi qui était pas capable de dire avec précision c'était quoi que j'offrais et c'était quoi que je n'offrais pas. Comme par exemple, encore, je vais prendre un autre exemple dans les communications et le marketing, c'est de dire, est-ce que vous faites la gestion de communauté? Moi, ça fait longtemps que je le sais, la gestion de communauté, c'est pas quelque chose que je fais. Donc, dès que quelqu'un vient me voir, puis que j'identifie que cette personne-là, ce qu'elle a vraiment besoin, ce qu'elle veut vraiment, c'est la gestion de communauté, ben je sais déjà, j'ai déjà ma liste de gens à qui je réfère, que je peux définitivement dire non, j'ai pas à perdre de temps non plus à essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais faire pour aider cette personne-là. Cette personne-là recherche un autre service que je n'offre pas. La chose qui est intéressante, par exemple, c'est que si des gens viennent vous voir souvent parce qu'ils pensent que vous offrez tel ou tel service, c'est vraiment de se demander, ben, comment est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à votre offre? Et est-ce que vous utilisez des mots qui pourraient faire croire que vous êtes justement spécialisé dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas ou que vous faites des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire? T'sais, fait que des fois, c'est juste la hiérarchie de l'information, comment c'est présenté sur votre site web, comment vous en parlez sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pour en revenir un peu aux insécurités, quand on débute, comme je l'ai dit, il y a souvent l'histoire aussi d'aller chercher des clients qui sont pas prêts à payer votre happy price, donc le prix que vous voulez charger dans un monde idéal, ben pas dans un monde idéal, dans le fond, le prix que vous voulez charger, celui que vous avez besoin de charger et celui dans lequel vous vous sentez bien à travailler, dans lequel vous vous sentez bien à partager votre expertise. Et ça, c'est une très, très grosse erreur d'accepter des clients à rabais, surtout si vous êtes un entrepreneur à temps partiel. Je ne pense pas que quand on est entrepreneur à temps partiel, c'est normal de se vendre à rabais. Parce que on n'a pas besoin, dans le fond, c'est pas une job alimentaire pour nous jusqu'à présent. Donc, moi, je suis de l'idée que dès le début, dès que vous vous lancez, si vous êtes en entrepreneuriat à temps partiel, et même si vous vous lancez de façon temps plein, de charger votre happy price, donc de ne pas charger en dessous du prix qui vous rend satisfaite, de travailler pour votre argent dans le fond. Et ce happy price là, il va changer, il va évoluer. Peut-être que vous allez commencer puis vous vous dites waouh, moi 60$ de l'heure, c'est ce que je charge, peu importe si ma compétition charge beaucoup moins cher que ça. C'est ça que je pense que je vaux et c'est le travail que je vais faire pour arriver là. Et éventuellement, tu sais, vous montez jusqu'à ce que vous atteigniez un salaire qui vous satisfait, un rythme de vie qui vous satisfait, un nombre d'heures de travail qui vous satisfait. C'est une conversation qu'on va continuer dans un épisode que j'ai enregistré récemment avec Geneviève Paré, qui est stratège financier. Et j'ai hâte de vous parler de ça, mais restez à l'affût pour cet épisode-là. On va pas vraiment plonger beaucoup plus dans le happy price ou dans le pricing aujourd'hui, mais c'était juste pour vous rappeler dans le fond que si vous débutez, si vous êtes entrepreneur à temps partiel, si vous faites des mandats on the side, chargez votre prix et ne descendez pas en bas de ça. J'ai fait l'erreur quand j'étais à mes débuts aussi de devoir convaincre une cliente que mon travail valait tant d'argent et de lui avoir fait un rabais pour qu'elle accepte mes services. Et en rétrospective, j'ai vraiment réalisé que c'était une erreur parce que, la relation, ça s'est fini un petit peu en queue de poisson parce que, à ce tarif-là, je me sentais pas... C'est comme si je me sentais pas respectée dans un certain point en tant que professionnelle et parallèlement, je donnais peut-être pas mon meilleur parce qu'inconsciemment, je me sentais que je me vendais à rabais. Donc, et puis de l'autre côté, ben cette cliente-là, obviously, n'avait pas... tu sais, c'était une grosse dépense pour elle, même malgré le rabais, et donc... Elle avait des attentes quand même assez grandes par rapport à ce qu'elle aurait voulu recevoir pour ce prix-là. Donc, il n'y avait vraiment pas un alignement d'un point de vue valeur perçue versus valeur rendue. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent quand on débute et dans lesquelles on se perd avec des clients qui sont vraiment, vraiment pas alignés avec notre philosophie, puis qui n'ont pas... qui sont pas à l'aise à payer le prix que vous chargez. Puis moi, je suis vraiment de l'idée que quand il y a un bon fit entre client et fournisseur ou entre client et fournisseur, personne se sent mal autant de demander l'argent que de payer l'argent. Puis je pense que c'est vraiment cette harmonie, cette dynamique-là qu'il faut aller chercher avec ses clients idéaux. Et ce qui fait que, bon, on réfléchit un petit peu, bon, ben, si moi, je veux charger... je sais pas moi, 2 000 $ ou 3 000 $, ben c'est qui vraiment la clientèle qui va être à l'aise de payer ça et qui va connaître, qui va voir la valeur de ça aussi. Ce qui me mène naturellement à l'exercice des personas ou des avatars, qui est l'exercice que j'amène tous les gens avec qui je travaille à faire, que ce soit en coaching, que ce soit en rédaction, que ce soit en communication, que ce soit en stratégie de visibilité. Il faut toujours, toujours, toujours connaître c'est qui notre persona. Puis, pour celles qui savent pas nécessairement c'est quoi une persona, le terme avatar est aussi utilisé, mais c'est vraiment comme une espèce de portrait humanisé de toutes les caractéristiques que vous voulez retrouver dans votre clientèle cible. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est de vraiment aller au-delà des bullet points, là, de juste des listes, puis de vraiment créer un portrait vivant pour qu'on puisse connaître à qui on s'adresse quand on écrit des messages, quand on envoie une infolettre, quand que je fais un podcast comme ça, et quand on présente notre offre, dans le fond. Quand même, on construit notre offre, on a cette persona-là en tête. Puis, faire ces personas, tu sais, ça prend pas beaucoup de temps en soi, mais ça prend beaucoup d'empathie. Il faut vraiment connaître c'est quoi les problématiques que cette personne-là vit, c'est quoi ses grands bloquants, de quoi a l'air son day-to-day, est-ce que elle utilise les réseaux sociaux, est-ce qu'elle utilise Facebook, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait genre dans ses temps libres, qu'est-ce qui la préoccupe, qu'est-ce qui la tient réveillée la nuit. Puis, c'est en mettant la main sur cette persona puis en affinant cette connaissance de notre public cible que là, on peut vraiment commencer à passer les bons messages puis éventuellement à tomber pile sur le public qu'on veut servir. Et avec les personas, il y a aussi les anti-personas que je pense qu'ils sont quand même importants à faire. Puis j'ai écrit un article sur le sujet que je partagerai dans les notes de cet épisode. Mais les anti-personas, c'est aussi ce contraire, c'est un peu le contraire dans le fond des personas, et c'est de se dire avec qui je ne veux pas travailler, tu sais, et d'aller identifier les red flags, d'aller identifier c'est quoi les avertissements qui font, ok, quand une personne me dit telle phrase, ou quand une personne agit comme ça, ou quand j'ai cette vibe-là avec une personne, ça veut dire qu'il rentre dans la catégorie de mes anti-personas. Et ça, c'est super important, puis ça aussi, j'ai commencé à le développer de plus en plus, d'essayer d'identifier c'est quoi justement qui va faire ça colle pas. Puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, si quelqu'un commence à s'obstiner avec mes tarifs, puis me dire j'ai pas l'argent maintenant ou des choses comme ça, mais là je me dis ok, alors cette personne est pas prête à investir de l'argent pour travailler avec moi, c'est-à-dire que un, soit elle comprend pas exactement la valeur que j'ai à lui offrir. Ou deux, elle est pas capable de se payer mes services. Et dans les deux cas, tu sais, je peux essayer de comprendre ce que c'est, mais bien souvent, ça va pas se solder dans une cliente ou un client. Ce qui est correct parce que je veux dire, moi, je veux pas tordre le bras à personne. Je veux pas que personne s'endette pour travailler avec moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux que le prix qui soit payé, ce soit un prix qui soit que les gens soient à l'aise à payer et dans lequel ils perçoivent vraiment l'investissement qu'ils font et la valeur qu'ils voient là-dedans. Dans les antipersonnels aussi, des choses qu'on peut identifier, c'est des traits psychologiques. Si vous savez que vous dealez pas vraiment bien avec ce type de traits-là, c'est aussi une raison tout aussi valide de ne pas travailler avec quelqu'un. Parce que on s'entend, on se lance en affaires, on se lance à notre compte ou même on se cherche un job parce que on veut être bien. Et je pense que dès que on voit qu'on n'est plus bien dans une relation, puis ça peut être une relation client fournisseur employé employeur, moi je suis vraiment pas d'avis qu'on a besoin de rester à une certaine place si on se sent pas bien. Dès qu'on se sent pas bien, on commence à magasiner, d'où l'importance d'avoir un branding personnel fort, parce que grâce à un branding personnel fort, on développe notre notoriété et notre crédibilité, et grâce à ça, on devient très, très mobile sur le marché de l'emploi et dans le monde entrepreneurial aussi. Donc, anti-persona, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau psychologique aussi, puis ça peut être au niveau du fit. Et, tu sais, des petits exemples de choses qui pourraient être des flags. Si, par exemple, vous donnez un meeting à quelqu'un et la personne arrive, je sais pas moi, 15 minutes en retard et vous a pas averti, ben peut-être ça peut être un red flag pour vous de dire, ok, ben moi, je veux travailler avec cette personne-là, elle a besoin d'avoir... Exemple, vous construisez un site web ou je sais pas, moi, tu sais, vous êtes coach ou des choses comme ça, et que votre temps est comme compté, ben est-ce que vous voulez vraiment travailler avec quelqu'un qui n'a pas de ponctualité? Bon, c'est sûr que si jamais, tu sais, vous voyez qu'il y a un bon fit puis que la conversation passe bien, que le courant passe bien, vous pouvez l'adresser puis dire, by the way, est-ce que t'es quelqu'un qui est souvent en retard, puis des choses comme ça, puis créer une relation. Mais si vous voyez qu'il y a pas de fit, puis qu'en plus il y a eu ce red flag-là, moi je dirais juste, bon, tant pis, on n'est pas fait pour travailler ensemble, il y a quelqu'un d'autre qui va fitter beaucoup mieux avec cette personne-là. Ce qui mène aussi à dire que, bon, souvent, on se rappelle la fameuse phrase où est-ce qu'on se disait, bon, le client est roi, il faut servir le client sous toutes ses coutures. Et je pense que c'est vraiment important qu'on se rappelle que, surtout dans une relation dans laquelle on est travailleur autonome ou qu'on fournit des services de consultation, des choses comme ça, on est en relation avec nos clients et cette relation-là est une relation d'échange. Et quand on parle d'échange, ça veut dire que autant la valeur qu'on apporte à nos clients, puis ça, c'est ma coach qui m'a fait penser à ça, que on s'attend aussi à recevoir quelque chose de ce travail avec le client. Puis c'est pas juste de l'argent, tu sais. Moi, quand je travaille avec ma clientèle qui est de plus en plus alignée, comme je disais en début d'épisode, je me sens bien, je me sens accomplie, je suis excitée à l'idée de travailler avec elle. J'ai des idées pleines la tête, je pense à elle entre mes séances de coaching. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va. Puis quand j'y pense, c'est vraiment le genre de feeling que je veux avoir au travail. C'est vraiment le genre de feeling d'excitation et d'optimisme et de vraiment de vouloir donner mon 110% parce que je vois les résultats, mais je vois aussi comment la personne évolue à travers le travail qu'on fait ensemble. Puis ça, même si on me payait le double de ce que je demande en ce moment, c'est ça vraiment que je veux chercher, moi, avec les types de services que je rends. Puis je pense que c'est la même chose avec n'importe quel type de professionnel, c'est que quand on fait quelque chose qu'on aime puis que on partage ça avec la communauté, ben on veut à quelque part que cet intérêt, que cette énergie transparaisse à travers nos résultats, à travers notre travail. Fait que la question peut-être à se poser aussi avec les personas et les antipersonas, c'est comment est-ce que vous voulez que vos clients vous fassent sentir? C'est quoi les sentiments que vous voulez qu'ils génèrent et de quelle façon vous voyez dans cette relation-là? L'autre chose avec... la clientèle, aujourd'hui, je voyais mon amie Annie, puis je lui disais « Ah, j'ai fait une erreur avec un client que j'ai pris parce que c'était trop pas aligné avec ce que je faisais. Je me sentais qu'il y avait pas de courant qui passait, puis finalement, je me ramasse à travailler plus après notre rencontre parce que je veux lui plaire, alors que j'ai l'impression que la qualité ou la valeur de ce que j'ai offert lors de notre coaching en personne est pas vraiment transparue, puis j'ai pas senti cette espèce de retour d'énergie vers moi. Et je me disais, bon, ben, tu sais, je suis pas une nouvelle dans le milieu, mais quand même, je reste indulgente envers moi-même parce que il y a beaucoup d'essais-erreurs quand on entre en relation avec notre clientèle, puis c'est un peu comme, je pense que c'est un peu comme dater, comme genre voir des nouvelles personnes quand on est sur le marché amoureux, puis de se dire, ok, ben j'ai eu une belle soirée avec cette personne-là, mais ça va pas aller plus loin, tu sais, je veux pas vraiment continuer, ou ce type de personnalité-là, ça me fait friser le poil sur les bras, genre je peux juste pas, et puis comme ça, petit à petit, trouver c'est quoi exactement notre match, c'est quoi notre fit, puis à quoi ressemblent les gens avec qui on veut passer plus de temps, dans le fond, parce que veut pas, le travail, c'est une grosse partie de notre vie, puis aussi bien se sentir bien pendant qu'on perpétue ces actions-là. Donc voilà, c'était un petit épisode court aujourd'hui. Je voulais vous parler de clientèle, je voulais vous parler de client idéal, puis aussi de vous rappeler que vous êtes jamais pogné dans une situation, puis c'est la même chose en emploi. Si vous voyez que vous êtes plus heureuse, puis que vous avez essayé d'adresser les problématiques sous plusieurs angles, et puis que ça se peut que ce soit juste pas un fit, puis ça se peut aussi que ça ait été un fit à un moment, puis que maintenant vous êtes rendu à quelque part d'autre, et que vous devez redéfinir c'est quoi votre idéal en termes de relations, en termes de clientèle, puis en termes de rémunération aussi. Donc, tous des questionnements qui doivent continuer à être générés au sein, au cœur de vos réflexions pendant que vous évoluez à travers l'entrepreneuriat et le monde professionnel. Sur ce, ben je vous souhaite une super belle journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. N'oubliez pas, si vous n'avez pas téléchargé la checklist pour lancer votre entreprise à temps partiel, c'est disponible sur mtamark.com/checklist. Et si vous voulez travailler votre notoriété, crédibilité, positionnement ou image de marque personnelle, vous savez où me joindre, tatiana@mtamark.com. À la prochaine! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!